Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Par les temps qui courent, tous les soirs, une heure de conversation avec les artistes. Ce soir, Evangelia Cragnotti.
Un tango, une danse, un baiser.
Et tu peux taper, péter, péter.
Ça y est, puis 21h.
Ah ben, à vous voir arriver, on n'aurait pas cru que c'était si bien. ça résume.
C'est vrai que le printemps, l'été, c'est formidable. On avait les mêmes tomates et les petits pois.
Par les temps qui courent, Marie Richeux avec Evangelia Cragnotti. Les marins sont comme des terroristes. Ils arrivent dans un port avec une bombe appelée Amour et la jettent. La bombe explose quand ils partent et ils ne reviennent jamais, en détruisant les cœurs de toutes les filles du coin. Que c'est étrange. Aimer quelqu'un qui te paie. Ce sont les mots d'une femme dont vous dites, Evangelia Cragnotti, qu'elle est venue vers vous avec le désir de raconter son histoire. Et son histoire, c'est entre autres celle d'une prostituée qui attend le retour d'immenses paquebots pour retrouver ce qu'elle appelle ses petits maris. Et c'est l'un des nombreux fils que l'on peut suivre dans votre travail exposé dans le cadre des rencontres photographiques d'Arles. Celui de l'amour, celui de la mer, la passion des départs, la passion des arrivées, les solitudes et les vies qui se rêvent autres. Dans votre travail, on n'est parfois pas certain d'avoir bien vu. Est-ce que ce sont des perles de sueur ou des paillettes de fête sur le front de cet homme? Et est-ce que c'est un homme d'ailleurs? Et est-ce qu'on voit un port et ses containers ou bien des morceaux de corps qu'on soulève et assemble? C'est parce que les choses sont troubles, qu'elles se transforment, que vous semblez les suivre des yeux. Bonsoir à vous et bienvenue.
Bonsoir, merci beaucoup.
Les rencontres photographiques d'Arles ont battu leur plein tout l'été. On peut encore visiter les expositions jusqu'au 22 septembre, dont la vôtre. C'est un travail qui se présente sous la forme d'expositions photographiques, mais aussi d'installations de deux films cinématographiques. J'ai pas vraiment envie de dire vidéo.
Vous pouvez le dire parce que un des deux est une sous sa forme d'installation en plein cœur, le cœur sombre de l'exposition. Donc c'est l'installation qui s'intitule L'extase doit être oubliée, un titre tiré d'un livre de Clarice Lispector, qui lui traverse le film correspondant Obscuro Barocco, mais qu'on voit pas dans l'expo. Par contre, on voit un autre film, Exotica Erotica etc., qui est à l'origine de tout, qui est le film sur les marins par lequel vous avez commencé.
Eh bien, c'est aussi par un film qu'on va rentrer dans cette discussion, le film que vous venez de citer, Obscuro Barocco.
O travesti é uma fábrica de sonhos.
Les travestis sont des fabriques à rêves.
Só que...
Seulement,
ele mesmo não pode
ils ne peuvent pas croire aux rêves qu'ils créent eux-mêmes.
Ainda é um dos poucos
c'est un des derniers endroits au monde où les gens peuvent encore rêver.
Ils sont dans notre imagination,
dans la part la plus profonde de notre imagination.
Ils
se mêlent à la part la plus intime de notre humanité. C'est pour ça que les gens sont effrayés quand un travesti les approche, parce qu'ils viennent violer la modestie de notre société hypocrite.
Alors on commence avec cet extrait de film, parce qu'il faut bien commencer par quelque part, Evangelia Cragnotti. C'est un travail qui est aussi brille, je trouve, par sa profusion, par les multiples facettes d'images qu'il propose. Est-ce que vous pouvez nous présenter la personne qui parle?
Luana Muniz était une icône brésilienne à son apogée quand je l'ai rencontrée moi, donc il y a 3 ans, en 2016. C'était une activiste, une présidente. C'était quelqu'un de très actif, voilà, plus que activiste, parce que la politique, tout ce qui touchait à la société l'intéressait. Elle prenait part, elle articulait une parole très forte, mais avant tout, elle s'est considérée comme une artiste. Donc, Luana Muniz était une travestie qui vivait au plein cœur de Rio de Janeiro, à Lapa. Elle avait le siège de son association. Elle était présidente de diverses associations, dont celle qui regroupait toutes les travestis et les travailleurs sexuels du centre de Rio de Janeiro, où moi, je suis allée pour prendre une permission de photographier dans leur quartier. Et c'est comme ça que je l'ai rencontrée. Avant elle, par la photographie, j'avais vu son propre travail, j'avais vu sa figure, celle de travesti qu'elle accueillait dans sa maison. Et je me suis sentie très très proche à cet univers, ses couleurs, ses climats en fait. Et je me suis dit que pour les projets que j'étais en train de monter à l'époque, Obscuro Barocco, qui n'était pas né en tant que film, mais qui était à ce moment-là la volonté de créer un très grand archive éclaté sur la ville de Rio de Janeiro, la ville qui m'a permis d'aller vers le cinéma quelques années plus tôt, quand j'ai débarqué avec la volonté de filmer les marins grecs et leurs amantes. Donc des années plus tard, je viens, les Jeux Olympiques battaient leur plein, mais se préparaient, c'était l'année des Jeux Olympiques. Et moi, je suis là avec la volonté de filmer, de faire un travail sur une autre culture, enfin sur l'autre. Et le prisme que j'avais choisi, c'était celui de la transformation et de la tragédie. Et dans le visage de Luana Muniz, je me suis rendu compte, au fur et à mesure, que les deux s'est croisé. Donc c'est pour ça que je l'ai choisi, elle m'a choisi, c'est un peu, ces choses-là se font mutuellement. Donc c'est comme ça que je me suis retrouvée sur son chemin.
Et sur le chemin de ce visage-là que vous filmez parfois de très très près, au point que chaque peut-être partie de son visage peut elle-même devenir un chemin à suivre, qu'est-ce que vous diriez pour présenter ce visage dont vous vous êtes approché si près? C'est rare de s'approcher aussi proche d'un visage.
Alors, c'était une volonté bien avant que j'explore le visage de Luana, de me rapprocher de cette culture que j'avais connue, ça m'a été donné de la connaître, donc le Brésil. Et la promiscuité, la proximité, j'avais senti que ça faisait partie inhérente de la façon de vivre là-bas. Donc quand je suis revenue à Rio avec le désir de faire un film, dans ma tête de cinéaste, photographe, j'avais déjà choisi mes focales, je sentais que j'allais avoir une position d'observateur, mais qui touche son sujet presque, qui est non sueur, la mienne, celle de celui qui essaye de cadrer, qui essaye de saisir tout, et l'autre, celle de la personne qui danse, parce que ça se passe beaucoup dans les mouvements là-bas. Donc, je savais que j'allais être près de ces gens-là, je savais que j'allais choisir les matériels qui me permettraient parfois même de tromper l'œil, de sentir que je suis plus près que près. Mais c'est vrai qu'avec Luana, on s'est rapproché énormément. Parce que, d'une part, elle était quelqu'un à fleur de peau. De l'autre, elle m'entraînait, en fait. Et son visage, et ses mots, et elle-même, dans les méandres d'une ville que moi, j'essayais de saisir à travers d'autres entrées. Et finalement, c'était sa bouche qui est devenue l'entrée vers les bas-fonds de Rio de Janeiro. Que je voulais
par son filmer. Langage ou pas seulement?
Pas que, aussi parce que plus tard, c'est elle qui a décidé de lire les textes de Clarice Lispector qui nous entraîne dans ces rios sombres, ténébreux. Mais parce que ça bouge presque comment dire, visuellement, n'est-ce pas, par toutes les transformations qu'elle a subies, elle était quelque part une porte d'entrée et une sortie de secours à la fois. Ça passait beaucoup, c'est un film très parlé, Obscuro Barocco, donc cette sorte de Marilyn qui a été Luana, une Marilyn transformée, une Marilyn très baroque, qui comme les travestis qui sont venus en Europe, elle a choisi elle-même de sculpter son corps avec la silicone, et donc ces bouches qu'on voit à Rio de tous les travestis filmés, ces bouches déformées. C'était, le focus de ce film.
Vous dites, Evangelia Craniotti, des transformations qu'elle a subies. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qu'il y avait dans sa bouche, justement, à l'instant, dans l'extrait de film qu'on a entendu. C'est toutes les transformations qui sont créées, c'est-à-dire pas subies, mais vraiment activement inventées. L'idée d'une fabrique de rêves. Et je trouve que ça, c'est aussi un fil qu'on peut tirer sur l'ensemble de votre travail, l'idée qu'il y a plein d'inventions de vie, il y a plein d'inventions de visage, il y a plein d'inventions de lumière, comme si la réalité n'était, entre guillemets, pas suffisante.
Mais la réalité reste le point de départ. c'est qu'il lit les différents projets qui sont exposés à Arles, que vous avez vus dans le film, que je vous ai envoyé. C'est une façon de rêver la réalité, de prendre la réalité comme point de départ pour la transformer et arriver ailleurs. Dans ce chemin, la lumière, elle est le A à Z pour moi. Pour l'instant, jusqu'à aujourd'hui, ça a été, ce sont des projets inventés et réalisés par moi. Donc, je suis derrière la caméra sans équipe à mes côtés et je prends à la fois toutes les décisions artistiques et techniques. Et il y a en moi cette grande envie de fabriquer à partir de la réalité un récit qui amène ailleurs, qui se rapproche au vécu des personnages, à leurs fantasmes, à leur mémoire, qui souvent est elle-même une fiction, une fabrication. Donc, ce sont des projets de documentaire, mais qui flirtent beaucoup avec la fiction. Et le personnage de Luana Muniz était, comme elle dit elle-même, comme les travestis est une fabrique des rêves, et effectivement, elle est une création. Elle assume ça. Et c'est pour ça que ça m'intéressait, d'ailleurs.
Vous disiez que l'une des manières pour vous de lire Rio de Janeiro, d'en fabriquer une archive vivante ou plusieurs archives éclatées comme ça, travailler à partir de l'idée de la tragédie, et en vous écoutant et en me remémorant certaines des images, j'ai beaucoup l'idée de la féerie, c'est-à-dire presque plus du côté de Shakespeare que du côté de Échille, par exemple. Comme si, mais je sais pas, c'est peut-être le scintillement de vos images qui fait que il y a une lumière un peu magique.
Ah, je pense que ce que vous avez comme ça, ce que vous appelez, venant pas de la tragédie, mais de l'ordre de la féerie, et pour moi l'élément dionysiaque que je reconnais, pas que moi, mais qui est un des deux ingrédients principaux de la tragédie,
le carnaval, avec l'Apollinien. La danse.
Donc ces deux éléments que moi, en tant que grec, j'ai reconnu dans cette culture, et dans mon mouvement d'aller vers le nouveau monde. D'ailleurs, vers lesquels je suis déjà allée avec Exotica, Erotica, etc., et les marins, et ces archétypes d'Ulysse et de Pénélope, et des sirènes, si vous voulez. Cette deuxième fois, c'était bien la tragédie, mais...
En y reconnaissant presque une autre face, en fait.
Exactement. Dans un monde presque inversé. Et c'était aussi mon intérêt de ce que c'est l'identité brésilienne dans laquelle, enfin, au sein de laquelle il y a un texte, encore les mots, les textes, un texte qui joue une grande importance, qui est le manifeste anthropophage, selon lequel la culture brésilienne, elle absorbe, elle mange les références pour les ressortir autrement. C'était le point de départ de ma propre recherche et dans ce que je voulais saisir et comprendre, ce qui m'attirait. Est-ce que je voyais retravailler, ressortir autrement de ma propre culture grecque, qui est donc aussi bien la transformation que les héros tragiques que je pouvais croiser dans la littérature brésilienne, qui étaient des héros partagés entre le cœur et la tête, l'esprit, la mente et le cœur. Donc, enfin, c'est plusieurs points de départ, mais que moi je reconnais comme venant de la tragédie. Et ça m'intéresse de le voir. Rétravailler, ressortir d'une autre façon.
Mais ça veut dire que votre premier regard vers le Brésil, c'est un regard de reconnaissance. C'est presque quelque chose que vous repérez de votre propre culture.
Oui.
Mais par la différence.
Exact. Par l'inversion.
C'est changé, c'est inversé, mais oui. Ça vous rappelle.
Oui. C'est une sorte de déco, un rappel, comme vous dites, sous une forme plus vertigineuse. Si on parle notamment du baroque, qui est là, pour le coup, ça ne concerne pas la Grèce, mais l'héritage européen, on va dire. D'ailleurs, j'étais très étonnée d'apprendre que, dans mes premières recherches, quand je voulais filmer le paysage et que je regardais l'architecture, j'admirais aussi bien la nature que l'architecture, et je les trouvais les deux vertigineuses.
Au Brésil.
J'ai découvert que ce fameux baroque qui est arrivé au Nouveau Monde avec le colonialisme est le fruit de ces métissages qui m'ont intéressé d'une autre façon dans mon premier film, entre les femmes de là-bas et les hommes venus d'ailleurs. Donc, bien avant, c'était les conquérants, on va dire, les colons, et les esclaves. Et les, les artisans du baroque, les musiciens du baroque, les sculpteurs du baroque, tous ces gens dont l'héritage on voit et on admire aujourd'hui et qui fait partie de l'identité brésilienne, étaient des enfants nés d'un métissage qui a créé toute une classe artistique. Donc ça, je le trouvais très intéressant, et dans la mesure où je voyais ça dans la pratique des travestis aussi, dans leur façon de se transformer le corps dans un mouvement à l'inverse, en venant de l'ancien monde en Europe, parce que c'est en Europe que la première génération de travestis brésiliennes ont inventé cette façon de transformer leur corps avec la silicone. J'ai commencé à repérer plein de signaux, en fait, de l'un et de l'autre bout, de deux mondes, que j'ai voulu les reconnaître, j'ai voulu les retrouver dans ce que j'ai filmé autour de moi.
Alors, comme il s'agit de reconnaître un peu de Grèce, on va écouter Jean-Pierre Vernon.
Il y a une grande querelle entre Achille et Ulysse, à l'intérieur même de la culture grecque. Et Ulysse peut être à certaines époques dévalorisé, c'est le menteur, c'est le roublard, c'est le type qui se tire d'affaires. Mais quand même, quand je lis l'Odyssée, Ulysse c'est l'homme des épreuves, c'est l'homme qui supporte tout, c'est l'homme aussi de la fidélité. C'est l'homme qui veut, au terme de sa vie, et même un peu, il n'est pas tellement vieux, qui veut retourner chez lui, retrouver les siens, et qui a Ulysse, non, quand le cyclope demande à Ulysse comment il s'appelle, Ulysse, pour le tromper, mais dans cette tromperie, il y a une vérité qui se profile par derrière, il dit qu'il s'appelle Outis, personne. Il dit qu'il est personne et on peut interpréter toute son épreuve comme une sorte de quasi-initiation, de récit de la façon dont un homme, à un moment donné, quitte l'univers des humains pour faire qu'il n'est plus rien. Il n'est plus rien parce qu'il est coupé du monde humain quand Calypso lui propose, Calypso c'est Calyptaine, c'est elle le cache, elle lui propose de vivre éternellement jeune avec elle s'il l'épouse. Éternellement jeune et immortel. Et il refuse et il verse des larmes en pensant à sa petite crotte d'Ithaque et à Pénélope, dont il dira à Calypso, mais oui, je sais qu'elle est bien moins belle que toi, elle est une mortelle. Mais c'est son monde. Alors, il n'oublie pas, c'est le problème. Toute l'Odyssée, les malheurs viennent de ses compagnons, de ce qu'ils ont à un moment donné oublié. Lui, il y a ce petit fil de la mémoire qui le relie à Pénélope. C'est la fidélité à soi.
France Culture, par les temps qui courent, Marie Richeux.
Ça fait toujours du bien d'entendre la voix de Jean-Pierre Vernon. On est en 1994 dans l'émission Le Bon Plaisir sur France Culture. Tout à l'heure, lorsque vous évoquiez brièvement, mais il va falloir peut-être reparler plus en précision de Exotica, Erotica, etc., Evangelia Cragnotti, vous disiez « Finalement, j'ai travaillé avec des Ulysses et des Pénélopes ». Alors, qui sont les Ulysses et les Pénélopes que vous avez filmés dans ce projet-là ?
Concrètement, ce sont des marins. De vieux marins, de marins en activité que j'ai croisés dans mes voyages. J'essaie maintenant de ne pas trop me référer à ces archétypes-là parce que j'ai conscience que il ne s'agit pas de filmer le retour de quelqu'un, mais quand même, à un autre niveau, ces notions restent toujours celles du départ et du retour. Mais je me suis plutôt confrontée à la réalité d'un métier, qui est celui des marins d'aujourd'hui, qui est le flux des cargos, qui est le changement du visage de la marine marchande et comment ça influe sur ces modes de vie qui jadis a fait naître cet archétype-là, celui de marin que l'on croit toujours être à mi-chemin entre le voyageur aventurier et le pirate. C'est la réalité bien différente. Mais les discussions que j'ai eues avec ces hommes-là tournaient autour de ces vieux thèmes, en fait, du départ.
Parce que vous les ameniez ou parce que eux les amenaient? Parce que c'était leur propre imaginaire?
Moi, j'étais un filtre. J'ai monté à bord dans les diverses traversées que j'ai eues. J'étais quelqu'un qui voulait savoir comment ils passaient leur vie, comment ils s'alliaient avec les femmes, qu'est-ce qu'ils ressentaient par rapport au pays, par rapport à celles qu'ils laissaient, à ceux qu'ils laissaient en arrière. Et donc, j'ai posé les grains, j'ai posé la question. Les sujets faisaient mal certaines fois, d'autres fois c'était comme ça écarté pour parler d'autre chose. Mais il y avait une grande volonté de leur côté. Ils ont tout le temps pour parler. Ça ne veut pas dire qu'on a envie de parler des choses qui font mal. Mais il y a notamment, pas que chez les Grecs, mais chez les Grecs parce qu'on a pu. On a cet héritage commun et j'ai l'impression que beaucoup ont été menés à considérer les métiers de la mer pas seulement à cause de l'argent que ça représente. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas ces gens-là à bord, hein, mais ce qui m'intéressait était ceux qui avaient un point de départ un peu plus philosophique sur les choses. Ensuite, ce qui vous entoure, l'eau, avec sa nature atemporelle, et votre prochain port étant tellement loin, vous avez tout le temps du monde pour parler et réfléchir sur la vie, la mort, sur ce que vous faites. Parfois, c'est beaucoup plus simple de donner sur la carte sa position que de, pour ces hommes-là, que de dire à quel moment ils sont dans leur vie. J'ai ressenti ça à plusieurs reprises. Il y avait face à toute cette précision technologique et ces contacts avec la famille qui est aujourd'hui, à nos jours, c'est une question d'un Skype, c'est une question d'un coup de fil. Ce n'est pas comme avant pour parler d'aliénation, de distance, de nostalgie. Ce sont des débats que j'ai eus avec eux et j'ai vu que techniquement aujourd'hui, ça tient de moins en moins de prétendre à ça. Mais cette vie faite de départ continue crée quelque chose, crée cette condition pour réfléchir sur ça, plus que sur la Terre. Donc certains étaient prêts depuis longtemps pour parler. Et puis moi, j'ai posé la question et ça partait.
Mais vous êtes allé rencontrer des hommes qui, peut-être comme le disait Jean-Pierre Vernon, sans forcément agiter ces archétypes-là, mais étaient justement du côté de personne, étaient à un endroit où ils n'appartenaient plus à leur existence, où il n'y avait plus d'accroche, où ils étaient... Parce que vous dites, finalement, c'était difficile de savoir quand est-ce qu'ils étaient dans leur vie.
Oui. Eh bien, je pense que moi, mon point de départ était celui-là. C'était une hypothèse personnelle, un questionnement. Et je trouve que finalement, dans tous les projets, notamment ceux qui sont présentés à Arles sous le titre « Les vivants, les morts et ceux qui sont en mer », qui est un titre attribué à Aristote, et qui... Je sens cette notion de personne, en fait. Des personnes, pas comme en français, mais des personnes comme en grec, outis ou kanenas. Je suis intéressée à ces gens qui se cherchent, qui cherchent leur place, qui par condition, parce que leur métier, comme les marins, ou les prostituées, ou les travestis,
ou les migrants exilés,
ils sont aux marges de quelque chose. Et ces marges présupposent un centre, et tout le débat est là, en fait. Donc, moi, ma thèse, mon point de départ, est d'aller vers ces milieux-là pour sentir comment on se définit et pour voir en image comme à quoi on s'identifie et pour créer une image avec ces gens-là. Donc les marins, ça m'a semblé être le symbole de ça. Un peu, si on parle d'archétype, oui, l'archétype des hommes qui sont obligés de bouger constamment et que sous ces choix professionnels, il peut-être se cache un désir de fuite que partageons-nous tous, que partagent aussi bien les femmes qui les attendent peut-être, mais qu'il est donné à eux de le assouvir. Et qu'est-ce qui se passe quand on exauce ses vœux? Il se passe à bord une condition qui m'a beaucoup étonnée, c'est que j'ai eu énormément de monotonie. Pas du tout la vie aventureuse que je croyais que les Ulysses contemporains vivent. Et malgré tout, un éveil des questions sur la vie, que finalement, de ces questions-là, j'ai tissé Exotica, Erotica, etc. C'est fait de ça.
Je pense aussi à un texte que vous avez écrit, alors complètement dans d'autres considérations, Evangelia Kragnoti, mais sur votre propre retour en Grèce, et sur parfois la difficulté de retrouver des rues qu'on connaît, de retrouver un paysage. Ce que disait Jean-Pierre Vernant, la question de l'Ulysse, le retour qui est parfois une illusion. Je pense aussi à la femme qui les attend, ces marins-là, et qu'est-ce que c'est que cette attente-là. Tout ça se croise aussi avec votre propre parcours, votre propre trajectoire.
Oui. C'est croise et ça commence même de ça, et ça se croise sur tous les chemins et peut-être il y a la suite aussi. Ben oui, je reconnais que je me suis intéressée aux marins parce que au bout d'un moment, dans ma propre trajectoire, ils étaient l'allégorie adaptée, pas parfaite, mais pour que je puisse comprendre ma condition de métèque, enfin d'étrangère, mais pas de quelqu'un qui... J'ai choisi de partir de la Grèce. C'était un désir très fort. Mais je n'ai pas échappé aux conséquences de ces désirs, qui parfois ne sont pas celles qu'on désire. C'est-à-dire, j'ai été moi aussi partagée entre une envie d'idéaliser les choses. Je reviens, je ne sais même pas tous ces mots pour dire... les retours en français. Donc, quand je rentre en Grèce, j'ai envie de repartir, et ainsi de suite, etc. Donc, c'est ce mouvement-là qui m'a, avec mes lectures venant de l'enfance, de l'adolescence, et je pense que c'est partagé pour tous, que si chez quelqu'un prend la forme d'être un archéologue ou un Indiana Jones, ou chez quelqu'un d'autre prend la forme d'être un diplomate, comme j'ai songé au moment, parce que j'ai fait des études de droit. Enfin, il y avait la graine de départ, de ces fameux « aller voir ailleurs » et « comment les choses sont ailleurs ». Donc, quand j'étais déjà en France, j'ai voulu revenir pour voir ces hommes-là, sur qui j'avais beaucoup lu. Et j'avais beaucoup entendu d'histoires quand j'étais jeune, sans qu'ils fassent partie de ma famille. Et la vie a fait que j'ai entendu beaucoup d'histoires des marins. Certains étaient de mon enfance et ça m'a marqué. Donc, je me suis dit, pour parler de mes origines, de mon incompréhension, du rapport au pays, je souhaite choisir des gens qui subissent ça et qui l'ont choisi en plus. Donc, ce n'est pas juste des immigrés, des gens qui se sont déplacés, déracinés. Et c'était comme ça que je commençais, pour poser des questions d'adulte et pas des questions d'enfant. Parce que enfant, peut-être on vous dit des mensonges, et ça fait plaisir et ça fait rêver et ça suffit. En tant qu'adulte, j'ai voulu comprendre certaines choses qui ont été les interviews initiales que je faisais avec les vieux marins méditerranéens dans les îles grecques, que je les croisais en hiver. Donc je suis partie... pendant quelques mois, c'était mon premier projet là-dessus, parce qu'Exotica, Erotica, etc., avant que ça devienne un film, a connu plusieurs phases, et chacune m'amenait encore un peu plus loin. Donc la première, c'était quand j'étais aux Arts Déco, où je faisais mon projet de fin d'études. La deuxième, c'était en Italie du Sud, avec des bourses, des résidences, j'ai pu voyager. Et je me rappelle que je sentais que c'était les hors-champs qui m'appelaient. C'était pas... Si on était en hiver avec des vieux marins qui me parlaient d'une époque révolue de la marine marchande grecque, l'époque d'or des années 60, on ne parlait pas de... J'étais techniquement face à un vieux monsieur qui s'attendait à mourir désormais et qui parlait de son passé. Il y avait toujours un ailleurs. Et quand j'ai parlé avec leurs épouses, elles me parlaient des autres femmes. On n'était jamais dans l'état présent. L'état présent était toujours effacé au profit notamment d'un passé lointain d'ailleurs, dont les secousses se faisaient sentir. Je n'oublierai jamais une veuve de marin qui pleurait encore à 93 ans parce que son mari l'avait laissée pour une autre dans un port quelque part. Et donc, c'est hors champ continu m'a fait aller au Brésil. Et les derniers hors champ étaient celui des bateaux, en fait. C'était de monter à bord. Parce que là-bas, dans le port, je voyais les hommes, mais ils partaient, puisqu'ils travaillaient en haute mer. Et les femmes, elles aussi, les femmes des ports, elles attendent. Et c'est toujours ces fameux hors champ, hors cadre. Toujours, elles sont avec la pensée de quelqu'un qui n'est pas là. Donc, c'était cette succession d'absences qui a fait que j'ai décidé de passer le cap et de faire ce film.
Est-ce que sur le bateau, il y avait du présent ? Est-ce que d'un seul coup, sur le bateau, vous étiez là où ça se vivait ? Pas là où on est en train de rêver au marin, à son retour, etc. Est-ce que vous avez trouvé l'endroit ?
Moi, oui. Mais j'ai trouvé des gens qui, eux, rêvaient d'ailleurs. Moi, j'étais tous ces jouets-là pour moi, parce que c'est lors de ces travelling à bord que j'ai même franchi le cap et j'ai passé de la photographie à l'image en mouvement. C'était une expérience profondément très forte pour moi, pour mon regard. Mais alors, j'ai rencontré des gens qui, eux, chaque nuit à bord, ils parlaient de ce qui se passait sur Terre. Chez eux, dans leur village, parfois. Si vous tombez avec des marins qui viennent de l'île de Chios en Grèce, qui est très connue pour ses marins, et souvent ils choisissent de venir à plusieurs d'un village, et donc ils parlent de ce qui se passe au village, c'est assez exceptionnel, parce que dans notre époque où tout est beaucoup plus globalisé, j'ai trouvé très étrange d'écouter les nouvelles du village, c'est assez d'une autre époque ça on dirait. Oui, eux, ils sont avec la pensée constante de ce qu'ils ont laissé, et où ils vont.
On va écouter Denis Dailleux, photographe qui se déplace lui aussi. Ici, il est interviewé au Caire, au micro de Vincent Josse.
Là, on est près de la Gamaleya, dans une petite partie de la Cité des Morts. Et je viens ici depuis à peu près un an. Et j'y ai pas vraiment fait d'image, enfin, pas encore. Mais contrairement à toutes les idées reçues, les gens vivent dans des maisons et absolument pas dans des tombes. Cette dame là, on est chez elle. C'est une maison en bois qui n'est pas climatisée. Bon, voilà. Aujourd'hui, il fait très chaud, par exemple. Mais elle vit dans une maison. Donc, il n'y a rien de sordide. Elle est ici parce que bon, il y a eu une exode rural après l'arrivée de Nasser et tous les paysans du delta sont venus s'installer dans la Cité des Morts. Les gardiens ont amené leur famille et donc ils vivent souvent. Ils sont d'abord à l'origine les gardiens des tombes et après et voilà ils se sont mariés. Et ils ont élevé leurs enfants dans le cimetière.
Et il y a un petit garçon qui vient de la rejoindre et qui nous regarde aussi assis sur ses genoux.
Ouais, c'est le petit garçon de la maison d'à côté.
Et cette dame, vous allez peut-être la photographier un jour ?
Ouais, je crois.
Les couleurs sont vertes, il y a des nappes, il y a...
Il y a beaucoup de goût.
Hein, oui, elle arrange tout, hein, il y a des petits napperons.
Oui, tout est arrangé, elle bête Gamil, ah oui.
Chocolat.
Ah ouais, Hachan.
Chocolat.
Gamil. Mertag, Anna Mertag, elle règle. Mm-hmm. Bah, je lui ai dit que je ferais peut-être une image, mais que pour le moment, il n'y avait pas beaucoup de lumière, qu'on est arrivé trop tard.
Donc vous entretenez un lien. Et comme vous êtes là depuis le début des années 90, hein, dans ce pays, assez régulièrement, puis vous résidez ici depuis 4 ans, il y a des gens que vous connaissez depuis des années et que vous photographiez régulièrement.
Mais évidemment, c'est la moindre des choses de revenir avec des images. Mais c'est pas la photo, c'est pas une obsession. Il y a des moments, c'est une nécessité, mais il y a aussi tous les moments où... Je viens voir les gens parce que j'ai envie de les saluer, c'est tout. Et puis, les Égyptiens, ils ont une telle élégance dans la vie que c'est une leçon.
Oh, dear.
France Culture, par les temps qui courent, Marie Richaud.
Juste avant la voix de Galia Ben Ali, c'était celle de Denis Daillé au micro de Vincent Josse dans la Vallée des Morts au Caire. Avant de parler peut-être de cet endroit précisément, j'aimerais bien qu'on parle de la manière dont il envisage la relation au lieu et aux personnes qu'il photographie. Il dit finalement la photographie parfois c'est une nécessité mais ça n'est pas mon obsession et parfois j'ai juste plaisir à vivre avec ces gens, plaisir à vivre dans ces lieux-là. Pour vous aussi, on entend, Evangelia Cragnotti, qu'il y a quelque chose de la chose à vivre qui est, je ne sais pas si c'est plus important que de faire des photos, mais c'est presque à égalité en tout cas.
Oui, oui, absolument. C'est-à-dire, moi avec la photo, j'entretiens une relation plus ambiguë qu'avec le fait de filmer. J'ai l'impression que je prends beaucoup plus de plaisir en filmant, parce que ça me permet de m'effacer beaucoup plus. Et cette fameuse question de vivre avec, de partager quelque chose, ça m'avait frappé au début, avant qu'Exotica devienne un film, avant que je commence à filmer dans les ports, où je sentais que la photographie, elle n'était pas à la hauteur de ce que je vivais. À la limite, elle me permettait d'extraire des fragments, des moments, de ces flux que ces gens me donnaient, mais que je ne leur faisais pas honneur que moi, en tant que personne qui filtre, en tant qu'artiste, je devais questionner mes moyens d'expression, parce que ce que j'arrivais à créer, seulement en m'appuyant sur la photographie, n'était pas la vie, c'était quelque chose d'autre. Et donc, c'était par souci d'être à l'auteur de la vie que j'ai passé à l'image en mouvement. Et ça nécessite de passer énormément de temps, beaucoup plus de temps avec.
Donc l'image en mouvement, vous voulez dire ?
Oui, ces fameux partages où vous laissez la personne se déployer, où vous filmez un visage comme un paysage, pour revenir un peu à Luana du début. Moi, je l'ai senti, je l'ai senti en filmant. Et ça me fait penser à Alain Cavalier ici, des phrases qu'il avait dit par rapport au, qu'il n'est jamais seul, qu'il est toujours avec les gens qui filment. Et c'est très très vrai. Tout ça d'ailleurs, les expériences à nouveau répétées sur le bateau que j'ai dû faire, même si ça a été plusieurs bateaux et pas que un, c'était pour pouvoir saisir, mais en profondeur, comme j'entendais la profondeur à chaque fois, donc du temps pour la plupart, ce qui se passait. Et je considérais d'ailleurs que c'était presque l'acte en soi qui valait la peine, pas forcément de montrer ces images, bien sûr il y avait la volonté de partager, mais je sentais que ces temps que j'ai passé sculptaient moi, que je devenais presque l'archive le plus complet de ma recherche, moi, en passant tous
mais
ces temps.
Mais c'est pas vous qu'on voit, avec au final. Gens.
Non, c'est un choix d'effacement, bien sûr. C'est ça qui m'adresse, pas de montrer moi, mais j'avais conscience que ça m'enrichissait tellement que parfois, oui, comme dit Denis Daillé, c'est le luxe de dire je ne sais pas, je ne ferai pas la photo. Peut-être que quand le temps viendra, je ferai la photo ou ça peut être je filmerai avec la personne. C'est volonté de sculpter le temps, de gérer le temps comme tu veux pour entrer dans une autre vie, pour la croiser, pour se permettre de se connaître. Donc ça veut dire beaucoup de temps aussi sur les terres.
Oui, exactement. Et puis ça me fait penser à ce titre-là, les vivants, les morts. Et puis c'est cette idée de qu'est-ce que c'est qu'une vie, qu'est-ce que c'est que de sculpter une vie. Là, Denis Dailleux était au cœur de la Vallée des Morts. Vous avez aussi fait des photographies à Beyrouth. Ce sont quand même des endroits qui sont... Alors, on pourrait se dire tous les endroits du monde, ils sont porteurs de ces questions profondes. Néanmoins, c'est quand même dans ces endroits-là que vous allez, Evangelia Cragnotti.
Oui, parce que il y a une... Je crois que l'extrait qu'on a écouté tout à l'heure avec Ulysse qui s'appelle « Personne », et ça décrit parfaitement les gens que je cherche, socialement parlant, les milieux qui m'intéressent. Mais chaque endroit est peuplé par nous qui sommes des morts vivants, enfin des vivants qui allons mourir. Mmh. Mais on ne l'appréhende pas de cette façon-là. On crée ces fameuses zones, on se sent à l'aise et il faut, c'est très bien. Mais je suis plus intéressée par les conflits. Comment créer même son territoire de paix en plein conflit? Les conflits n'est pas que la guerre. Les conflits est aussi dans la société. Les conflits est aussi dans les corps. Le corps peut être en terrain de conflit, ce que je veux pour les travestis et les transsexuels. Et je me suis dit comment quelqu'un gère ça et comment il se recueille et comment il retrouve son moment à lui ou à elle, comment il dort bien en plein cimetière. Bien sûr, comme dit Denis d'ailleurs, on peut dormir bien, on peut élever des enfants, on peut se marier, on peut mourir là-bas. Mais ça, c'est ça qui m'intéresse. Parce qu'il y a une conscience quand on est dans ces endroits, quand on est privé donc de tout ce qui peut nous donner l'illusion d'une vie stable. On est ouvert hein, comme devant une fenêtre qui laisse le vent rentrer de façon plus active à ces questions, la mort, à la maladie, à la précarité, à quoi est fait le lendemain. Ça ne veut pas dire que vous et moi, on est épargnés de ça. Mais les soirs, on rentre chez nous et ça joue beaucoup, c'est tout un clic mental. Donc, quand j'étais à Rio, ou quand j'étais sur les bateaux, ou quand je photographiais les bandes du Liban qui sont sans papier, mais on créait cette havre en imaginant qu'il venait de prendre un titre dans un concours de beauté qui les sacrait Miss Elegance ou Miss Without Papers ou Miss that. Donc c'est des mini-fictions qui ramènent chacun à son propre histoire et qui disent quelque chose de la capacité de résister, en fait. Qui est propre qui est même à laquelle on se confronte, mais vous comprenez bien que dans certains milieux, c'est plus urgent.
Tout à l'heure, vous avez dit, Evangelia Cragnotti, que la lumière, alors je ne sais plus si vous avez dit que c'était la couleur ou la lumière, c'était de A à Z, probablement la lumière. Alors on va écouter Caroline Champetier.
On pourrait dire aujourd'hui, je dévie vers la couleur. Comme j'ai beaucoup travaillé sur le motif, quand je dis sur le motif, c'est un décor naturel, et avec des cinéastes qui sont en quelque sorte naturalistes, réalistes, je me suis vraiment beaucoup interrogée sur la lumière naturelle, le soleil, les reflets, la façon dont elle peut être déviée par des rideaux ou obstruée, ou etc. Et puis, plus on rentre vers cette fabrication, cette composition d'images dont je parlais tout à l'heure, à propos de Méliès, qui lui était en noir et blanc, il y a quelque chose qui arrive et c'est la couleur. Et là, j'ai envie de m'y confronter plus. C'est-à-dire de travailler des oppositions de couleurs et la lumière mais ça, les peintres abstraits l'ont fait avant moi, hein, j'invente rien. Et la couleur devenant la lumière.
La directrice de la photographie, Caroline Champetier, en 2019, dans l'émission « Par les temps qui courent », ici donc, parce que il y a quelque chose de très puissant dans ce qu'elle raconte de sa déviation vers la couleur, pour parler de votre propre travail, Evangelia Cragnotti, et l'omniprésence de la couleur. Il y a une explosion de la couleur. Alors, est-ce que vous faites comme elle le lien entre la lumière et la couleur?
Bah, la couleur est partout, hein. À moins que on voit de la couleur. Donc, quand je vous disais tout à l'heure que j'aime bien partir de la réalité pour créer, donc travailler avec, c'est un parti pris. Je me suis que à tout, mais tout début, je travaillais avec le noir et blanc. Donc, notamment quand j'ai passé à l'image en mouvement, j'ai pris la couleur comme la condition de base, le monde à partir duquel je vais devoir composer. C'est-à-dire, je n'ai pas rendu plus explosive la couleur que je voyais, mais elle joue un rôle dans mon travail que je ne pourrais pas l'extraire de l'équation que avec laquelle je travaille. Un autre paramètre de cette équation, c'est la lumière. Et là, effectivement, j'interviens pas parce que j'utilise la lumière artificielle, mais parce que je la prends telle qu'elle, quand je la trouve, et notamment je choisis de la trouver en plein milieu de l'obscurité, dans la nuit. Donc, pour moi, la couleur, c'est la lumière, c'est une composante, c'est presque dans le film, presque une voix off, c'est celle de mon regard. Quand on travaille en montage, on appelle les scènes avec leurs couleurs. Tiens, ça peut être la scène bleue ou la scène rouge, la scène. Et je mets jusqu'ici, parce que j'ai travaillé dans le documentaire, c'était le défi pour moi d'arriver avec les conditions que j'ai trouvées chaque fois sur place, d'atteindre le potentiel mythique brut qu'ont certains endroits, à propos duquel on m'en parlait. Parce que j'interviewais des marins ou des prostituées ou des gens qui se déplacent, parfois des gens qui n'ont pas de qualité de poète ou d'écrivain ou de conteur, mais par la force de leur mémoire et du vécu, ils me parlaient des endroits qui paraissaient cinématographiques. Or, quand moi je mettais les pieds à ces endroits, ils n'avaient pas beaucoup de choses cinématographiques.
Vous ne voyez pas tout de
suite. Ça ne se voyait pas tout de suite. Et donc, c'était toute la recherche et toute l'envie de trouver comment un bateau qui a une masse de fer, à quel moment ce bateau, il va se transcender. Il va être un lieu où une histoire peut avoir... Peut se passer. Pourquoi un bateau ou une cabine LED, sombre, elle peut paraître si hantée, si cinématographique? Bien sûr, on amène du soi, hein, mais je n'amenais pas de lumière, en tout cas supplémentaire. J'amenais toutes ces fictions, toutes ces histoires et cette volonté, voilà, de rencontrer de quoi ces histoires étaient faites, mais de le rencontrer dans la réalité, donc ne pas le construire. Et c'était la lumière qui faisait que...
Vous parlez de voix off, d'une lumière comme votre propre voix off, Evangelia Cragnotti. Et tout à l'heure, vous disiez que finalement, c'est Louana Moinis qui elle-même a amené la volonté de voix off. On reparle de cette figure travestie du premier film qu'on évoquait tout à l'heure et la lecture du texte de Clarice Lispector. Alors, on va écouter la voix de Clarice Lispector en 1977.
Quand on me communique en créance,
quand je m'adresse à l'enfant, c'est facile, car je suis très maternelle. Quand je m'adresse à l'adulte, en fait, je m'adresse au plus secret de moi-même. Et là, c'est difficile. Mais l'adulte est toujours solitaire? L'adulte est triste et solitaire. Et l'enfant? L'enfant? Il a l'imagination libre.
À partir de quel moment,
selon l'écrivain, l'homme devient triste et solitaire? Ah, ça, c'est un secret. Pardon, mais je ne vais pas répondre. À n'importe quel moment de la vie, il suffit d'un choc un peu inattendu. Et ça arrive. Mais je ne suis pas solitaire, j'ai beaucoup d'amis. Et je ne suis triste aujourd'hui que parce que je suis fatiguée.
Ça demande à être vérifié, peut-être cette dernière phrase. 1977, c'est la voix de Clarice Lispector que traduit à l'instant Jeanne Aléos. Est-ce que vous pouvez la présenter pour les personnes qui ne la connaissent pas?
Oui, Clarice Lispector était une écrivaine de langue portugaise. Mais il y a un point intéressant à préciser, c'est qu'elle était née en Ukraine, donc elle était... elle venait de ce vieux monde et très 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 jeune, à quelques mois je crois, elle était arrivée au Brésil. La première langue, sa première langue était le portugais, donc elle s'est revendiquée comme écrivaine de langue portugaise, mais toujours est-il que sa façon d'écrire le portugais a une sorte de mutation à l'intérieur de sa façon même de son syntaxe, la façon dont elle place les mots, qui fait que le portugais de Clarice Lispector est presque plus facile pour un enfant, comme on a entendu, elle parle des enfants, ou pour un étranger de le parler, de le lire, que pour un brésilien ou un portugais. C'est-à-dire, il y a toujours une légère sensation de décalage qui est certes propre... Elle émane des thèmes qu'elle traite, mais aussi de la façon dont elle écrit ses phrases. Juste la façon dont elle choisit la ponctuation et où elle place l'adjectif par rapport au verbe. Et ce n'est pas moi qui dis ça, même les personnes qui la traduisent. C'est un lieu commun que Clarice Lispector construit la langue d'une façon presque... C'est ça, le mot mutant, je crois que c'est très évocateur de ça. Si quelqu'un peut lire l'original, il saura, et c'est un peu, parfois, un petit casse-tête pour le traducteur, pour donner cet air, ce côté, comment dire, déplacé presque de la langue. Et moi, je me suis beaucoup, ça m'a énormément plu parce que, d'une part, Clarice Lispector, c'est une des très peu, de mes écrivains et créateurs favoris. Donc, étant au Brésil, travaillant avec un sujet aussi, comment dire, qui traite de l'identité, mais à travers le kaléidoscope d'un décor découpé, récomposé, à travers d'une récomposition, à travers d'un métissage. Je vous parlais au début de ces amours des esclaves et des colons qui ont fait naître les artistes, le baroque. Et que donc, un autre baroque contemporain serait celui qui pratique les transsexuels qui se transforment. Ou celui du carnaval, ou etc. Pour ne pas revenir. Mais j'ai trouvé dans la langue de Clarice Lispector, dans les livres, un des livres que j'aime, qui est donc celui dont j'ai emprunté des phrases pour Obscuro Barocco, qui est Agua Viva. Ces côtés transformés, transcendés et transformés, qui est à l'origine, je pense, de sa façon de penser et de cette presque double identité dont elle était porteuse elle-même. Et j'inviterai ceux qui nous écoutent en ce moment d'ouvrir n'importe quel livre de Clarice Lispector, et si le livre qu'ils ont devant les yeux c'est Agua Viva, d'ouvrir n'importe quelle page et de commencer à lire.
Quelle bonne nouvelle! Vous allez aller vers où maintenant, Evangelia Cragnotti?
Vers un nouveau hors-champ, qui est un appel dont, comme ça, si on est en mer, on voit, quand quelque chose a passé devant vous, on voit les traces dans l'eau, vous voyez, les vagues qui viennent vers vous. Donc, pour moi, ces vagues-là qui me remuent, sont la fiction, en fait. Donc, il y a des histoires qui sont en hors-champ en ce moment pour moi et qui sont plus de l'ordre de la fiction que du documentaire et que c'est vers ça que je vais aller. Sachant que je sentais que ça, Ça existait déjà dans les premiers films, dans les premiers projets, cette fameuse histoire de créer, d'aller plus profond, pas juste dans la réalité, quand je vous disais qu'on prend le départ.
Ça veut dire que vous allez la quitter complètement ?
Non, parce que je vais toujours travailler à partir de la réalité. Ce sera la matière première. Mais j'ai constaté que pendant mes premiers projets, j'ai dû aller au bout du monde, travailler avec d'autres cultures, avec d'autres langues, avec toujours derrière la tête, en rappel, je vous parlais des tragédies, je vous parlais des archétypes comme point de naissance de mes premiers projets, que finalement ont été filmés partout, sauf la Grèce, et qui donc principalement sont des projets documentaires, mais qui ont la... comme ça, ils sont habités par des récits qui le sont moins. Maintenant, je me suis rendu compte que je vais aller vers la fiction de plus en plus et que cet appel me ramène aux sources. Et soudain, je me trouve habitée par une envie de filmer la Grèce. Que ce soit Athènes ou que ce soit la province, les histoires que je vois dans l'horizon, maintenant, viennent de mon passé. Très loin dans le passé. Je les ai inventés à un âge où peut-être j'écoutais aussi les marins et j'ai dû aller faire une longue balade dans le monde pour revenir au point de départ.
Et revoilà Ulysse. Merci beaucoup Evangelia Cragnotti. On peut donc voir votre travail exposé en ce moment dans le cadre des rencontres photographiques d'Arles, un travail qui a reçu le prix Madame Figaro. C'est visible jusqu'au 22 septembre et puis la suite en Grèce alors.
Merci beaucoup.
À la prise de son ce soir, c'était Bernard Lagnel. À la réalisation, Lise-Marie Barré. Par les temps qui courent, c'est Jeanne Aléos, Romain Debec de Lièvre, Marianne Chassor et Lucie Riandet. Vous pouvez réécouter l'émission sur franceculture.fr. Vous pouvez aussi vous abonner au podcast pour l'écouter où vous voulez, quand vous voulez. 22h dans un instant sur France Culture, c'est le journal. Très belle soirée.